VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 3 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seludia. Tout d'abord, les titres. Au Kenya, le chef de l'opposition, Raila Odinga, annule les manifestations de ce lundi. En RDC, des soldats sud-soudanais rejoignent la force régionale est-africaine. RDC toujours, un glissement de terre, un fait au moins 19 morts à Bouloa, un village du Massissi dans la province du Nord Kivu. L'ancien président américain Donald Trump va s'exprimer en Floride mardi soir après son inculpation historique à New York. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken réclame la libération du journaliste américain arrêté en Russie dans un appel à son homologue Lavrov. Les prix du pétrole bondissent de près de 6% après les coupes de production par plusieurs grands pays exportateurs. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oumpatine. Pour l'instant, le journal. Au Kenya, le dirigeant de l'opposition, Raila Odinga, a appelé dimanche à annuler les manifestations prévues ce lundi dans le pays. Il a annoncé que son parti va participer à un dialogue avec le gouvernement après 2 semaines de protestations. Rosine Mounezero.
Cette annonce survient après un appel au calme lancé dimanche par le président William Ruto. Dans une déclaration à la Nation, M. Ruto avait exhorté l'opposition à annuler la manifestation prévue lundi et à participer à une commission parlementaire bipartite. M. Odinga a salué le rameau d'olivier présenté par M. Ruto, mais averti que les manifestations pourraient reprendre si aucun progrès n'était réalisé au bout d'une semaine. Nous nous réservons le droit d'appeler à des manifestations si ce processus ne porte aucun fruit et de les reprendre au bout d'une semaine, a-t-il dit. Raila Odinga accuse William Ruto de lui avoir volé la présidentielle d'août, d'être illégitime, mais aussi d'être incapable de juguler l'inflation. 3 personnes, dont un policier, sont mortes depuis le début de ces protestations qui ont poussé fin mars l'Union africaine à appeler au calme et à entamer un dialogue à l'instar de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Les États-Unis se sont dit vendredi profondément préoccupés.
Au Gabon, le PDG, parti au pouvoir, célèbre ses 55 ans d'existence. L'avenir immédiat, ce sont les élections générales prévues dans 5 mois. Mais jusque-là, le président sortant, Ali Bongo Ondimba, ne s'est toujours pas prononcé sur un éventuel 3e mandat. De Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
Arrivé au palais des sports de Libreville sous une forte ovation des militants du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba a pris part aux festivités. Initialement prévu le 12 mars dernier, ce rendez-vous a été différé à la suite du récent naufrage qui a endeuillé plusieurs familles. Pour la mémoire des victimes, une minute de silence a été observée, un drame qui rappelle à Ali Bongo Ondimba une difficile épreuve sur le plan personnel avec son accident vasculaire cérébral en 2018 à Riyad en Arabie Saoudite. « Je vous suis infiniment reconnaissant pour le soutien que vous m'avez manifesté durant cette épreuve et de votre accueil à mon retour de convalescence. » À la fin d'un émouvant récit sur son parcours thérapeutique, le numéro 1 gabonais est revenu sur la longue marche du parti. Les 5000 militants l'attendaient pour dire s'il est candidat à sa propre succession, mais Ali Bongo Ondimba maintient le suspense à 5 mois du scrutin. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, au moins 19 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain dimanche à Bouloa, un village du Massissi dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé l'un des chefs de ce village. Il a indiqué qu'au moins 19 personnes avaient trouvé la mort suite à l'éboulement et que les recherches pour retrouver d'autres victimes devaient se poursuivre ce lundi. Environ 25 mères, accompagnées de leurs enfants, étaient en train de faire leur lessive dans un ruisseau au pied d'une montagne lorsque le glissement de terrain s'est produit, ensevelissant certaines d'entre elles, a dit l'administrateur, un administrateur local. L'éboulement s'est produit lors de fortes pluies, a ajouté un autre témoin. Des soldats sud-soudanais sont par ailleurs arrivés dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils vont renforcer la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 à Jean-Roger Bion.
Au moins 45 soldats sont arrivés hier à Goma en fin de matinée et d'autres contingents sont attendus à des dates ultérieures. La force de la communauté des États d'Afrique de l'Est est chargée, en plus de la force de l'ONU, de ramener la paix dans l'Est congolais en proie aux violences armées depuis près de 30 ans. La majeure partie de la région est sous la coupe de douzaines de groupes armés. Le M23, ancienne rébellion majoritairement Tutsi, a repris les armes fin 2021 et est soutenu selon la RDC et des experts de l'ONU par le Rwanda, ce que Kigali dément. Depuis un an, ce mouvement rebelle s'est emparé de vastes pans de territoire du Nord Kivu et a provoqué la fuite de milliers de personnes. La force est-africaine qui comprend outre les Sud-Soudanais, des soldats du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda, doit superviser un retrait programmé des rebelles.
Au Maroc, le dramaturge marocain Ahmed Jawad est décédé dimanche dans un hôpital de Rabat où il était soigné, une semaine après s'être immolé par le feu en signe de protestation contre le ministère de la Culture, a indiqué à l'AFP un responsable marocain qui a requis l'anonymat. Les médias locaux avaient expliqué son geste par un sentiment d'exclusion et de marginalisation. Pour sa part, le ministère avait alors exprimé dans un communiqué son profond regret, précisant qu'il s'agissait d'un fonctionnaire contractuel au théâtre Mohamed V de Rabat à la retraite depuis octobre 2021, qui bénéficie de tous les droits qui lui sont garantis par la loi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump va prendre publiquement la parole mardi soir en Floride, après sa comparution attendue devant la justice à New York, où il se verra signifier son inculpation au pénal dans l'affaire Stormy Daniels. Le point avec Mohamed Oumfa.
L'ancien président américain devrait être formellement mis en accusation dans l'après-midi de mardi par un tribunal de New York où il sera photographié et ses empreintes seront relevées. Donald Trump a été inculpé jeudi par un grand jury dans l'affaire du paiement effectué par son ancien avocat à l'actrice de film porno Stormy Daniels lors de la campagne électorale de 2016, une première pour un ancien président américain. Les charges exactes retenues contre lui n'ont pas encore été révélées. Donald Trump, qui se dit innocent, dénonce une chasse aux sorcières et des accusations politiques visant à amoindrir ses chances à l'élection présidentielle de 2024 pour laquelle il s'est porté candidat. Il compte quitter lundi sa résidence de Mar-a-Lago pour se rendre à New York où il passera la nuit avant de se présenter devant la justice, puis de repartir dans la soirée pour la Floride, a indiqué dimanche son équipe.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réclamé dimanche la libération immédiate du journaliste américain arrêté la semaine dernière en Russie pour des soupçons d'espionnage, qualifiant sa détention d'inacceptable. C'était lors d'un appel téléphonique à son homologue russe Sergueï Lavrov. Il a également réclamé la libération d'un autre Américain, Paul Whelan. Pour sa part, M. Lavrov a dénoncé ce qu'il a appelé le tapage médiatique en Occident au sujet de l'arrestation du journaliste américain, disant que son sort sera déterminé par un tribunal. Conflit en Ukraine, le chef du groupe paramilitaire russe, Wagner, Evgeny Prigogine, a revendiqué lundi la prise de la mairie de Bakhmout, affirmant que cette conquête signifiait qu'il contrôlait désormais la ville au sens légal. Pour sa part, l'Ukraine assure qu'elle tenait encore cette ville de l'est du pays, où des combats acharnés font rage depuis des mois. Une vidéo accompagnant son message sur Telegram montre M. Prigogine brandissant un drapeau russe avec une inscription à l'honneur de Vladlen Tatarsky, blogueur militaire russe, fervent défenseur de l'offensive en Ukraine, tué dimanche par l'explosion d'une bombe. Cet attentat dans le centre historique de Saint-Pétersbourg a également fait 25 blessés. Le roi Abdallah II de Jordanie a souligné dimanche son engagement à sauvegarder les lieux saints de Jérusalem lors d'une réunion à Amman avec les chefs religieux musulmans et chrétiens de la ville. « La Jordanie sera toujours avec vous », a assuré le roi en recevant une délégation conduite par le président palestinien Mahmoud Abbas. Les tensions entre la Jordanie et Israël sont montées d'un cran après des propos d'un ministre israélien niant l'existence du peuple palestinien et sur fond de crainte de recrudescence du conflit israélo-palestinien pendant le mois musulman du Ramadan qui a débuté le 23 mars. Les prix du pétrole bondissent ce lundi après l'annonce surprise par plusieurs grands pays exportateurs d'une réduction dès mai de leur production présentée comme une mesure de précaution pour stabiliser le marché. Cette coupe annoncée dimanche par l'Irak, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman et le Koweït débutera donc en mai et perdurera jusqu'à la fin de l'année. Elle signifie au total une baisse de la production d'environ 1 million de barils par jour, soit la plus importante réduction depuis octobre. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Basketball pour démarrer au Mali, un tournoi de l'amitié ouvre ses portes aujourd'hui.
Oui, et ça va se disputer pendant 5 jours à Bamako. L'objectif est de permettre à cette discipline de redorer son blason dans le pays. On retrouve notre correspondant sur place à Bamako, Siaka Traoré.
C'est un tournoi international de basketball qui regroupe 4 pays, notamment le Mali, pays hôte, l'Algérie, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Ce sont les moins de 16 ans, en filles et en garçons, communément appelés U16, qui sont concernés. En initiant ce tournoi, il s'agit pour la Fédération malienne de basketball de contribuer à redorer le blason de la balle au panier dont l'image a été écorchée en 2021 par une affaire de harcèlement sexuel. Des sanctions avaient même été prises en son temps à l'encontre d'acteurs du basketball au Mali par FIBA Monde. Le tournoi international d'amitié de basket sera surtout une occasion pour la Fédération malienne de basketball d'anticiper sur les préparatifs des jeunes joueurs et jeunes joueuses pour les campagnes internationales futures. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Football à présent avec la fin des phases de groupe des interclubs de la CAF.
Tout à fait. Et en Ligue des Champions, Al Ahly du Caire a décroché le dernier billet pour les quarts de finale après sa nette victoire 3-0 sur les Soudanais d'Al Hilal. Un succès qui lui permet de prendre la deuxième place du groupe B derrière les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les résultats dans les autres groupes où on jouait pour la première place. Dans le groupe A, c'est le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, qui finit en tête suite à sa nette victoire 3-0 sur les Algériens de la JS Kabylie. L'autre club de Casablanca, le Raja, termine leader invaincu du groupe C après avoir dominé 3-1 les Tanzaniens de Simba. Enfin, c'est l'Espérant de Tunis qui termine en tête de la poule D malgré son nul 0-0 à domicile avec les Algériens du CR Belouizdad.
Épilogue également pour les matchs de poule en Coupe CAF où il restait 2 tickets à prendre pour les quarts de finale.
Et l'un est allé à l'USM Alger qui a corrigé les Libyens d'Al Akda 4-1. Un succès qui le place devant les Congolais de Lupopo battu 3-2 par le leader Marumo Galant d'Afrique du Sud. Le second ticket a été empoché dans la poule C par Pyramide FC qui est sorti vainqueur du duel égyptien face au futur FC. Score 2-1. L'autre match du groupe a vu les militaires du phare de Rabat déjà qualifiés accrocher 1-1 par les Togolais de l'Asco du Kara.
Pour la suite des résultats, la SEC d'Abidjan, déjà qualifiée, termine en tête de son groupe.
Exactement Idrissa, c'est après avoir battu 1-0 les Nigérians de Rivers United. Les Mimos comptent 13 points, 3 de plus que leur adversaire du soir également qualifié. Et puis dans le groupe D, l'US Monasti et Young Africans partagent la première place avec 13 points chacun après leur succès respectif 2-1 face à l'AS Real de Bamako et 1-0 sur le terrain du TP Mazembe classé dernier.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les prix des denrées sont en augmentation depuis la veille du Ramadan, une inflation qui intervient systématiquement depuis plusieurs années à l'approche du mois de jeûne des musulmans. Le gouvernement guinéen a fait un ajustement des prix, mais aussi un marché du Ramadan est ouvert dans la capitale, le tout pour soulager le panier de la ménagère, nous dit notre correspondant Zakaria Kamara.
Marché de Kapourou à Conakry. C'est ici que ma binti Sila, femme au foyer, a l'habitude d'acheter ses denrées alimentaires. Aujourd'hui, elle constate un changement.
Voilà, les choses qui étaient à 2000, aujourd'hui on peut acheter qu'à 3000 ou 4000 carrément. Donc ça a augmenté. On pouvait acheter l'aubergine à 1000 francs, mais là il n'y a pas. Ça commence carrément à 2000 et 5000. Le piment aussi, ça a partir de, tout ça à partir de 2000. Il n'y a pas un truc de 1000 francs à l'heure là au marché.
Face à la cherté des prix des denrées, le gouvernement guinéen a pris des mesures visant à maintenir les prix sur le marché. L'économiste Mohamed Camara explique pourquoi on parle d'inflation en Guinée en ce moment.
Le monde est confronté à la fois à la crise de Covid, qui dont les séquelles se ressentent jusque maintenant, aussi par la guerre en Ukraine et aussi par les effets de changement climatique. La Guinée importe beaucoup de produits de consommation. Quand le prix monte à l'international, cela se répercute sur le prix des biens importés en Guinée. Et pour les biens produits ici, notamment les produits agricoles, on a constaté une hausse des prix de l'engrais, des intrants agricoles, ce qui a rendu aussi le coût de production agricole très élevé. Et concomitamment, les produits qui en découlent aussi sont élevés.
En plus du plafonnement des prix décidé par le gouvernement, les Guinéens s'approvisionnent en denrées sur le marché du Ramadan. On y trouve les principaux produits de grande consommation.
Moi, c'est Madame Kanté Aïcha. Je suis la PDG des épices des saveurs de Bata Guinée. Ici, nous avons des épices que nous faisons chez nous. Le sombara, le piment, le poisson bonga, les crevettes, tout ça. Et nous avons pratiquement aussi le manioc en poudre, le gombo également.
Cet entrepreneur vend ses produits à des prix réduits pour des raisons de foi.
C'est au moins 5. Et je pense que tout le monde doit en bénéficier. Certains n'ont pas les moyens et c'est un mois de pénitence. Donc pour ça, il faut y avoir un bon musulman, une bonne foi, afin que chacun de nous puisse au moins avoir de quoi manger.
En Guinée, l'inflation est de 8,7, soit une augmentation de 2 points il y a un mois. Mais les prix des sacs de riz, d'oignons, de pommes de terre, celui du bidon d'huile connaissent une diminution à la suite des mesures prises par le gouvernement guinéen pour soulager le panier de la ménagère. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Merci Zakaria. Au Bénin, la nomination de l'ancien maire de Kigali à la tête de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, continue de susciter des mécontents. Après la classe politique et quelques intellectuels, c'est au tour de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin de dénoncer la promotion de cadres étrangers au détriment de ceux du Bénin. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Jeanette Flair-Adandé.
Pascal Nyamulinda est depuis quelques semaines le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Devant la polémique suscite cette nomination, le porte-parole du gouvernement est monté au créneau pour justifier la décision du chef de l'État béninois. Pour Wilfred Léandre Mbedi, c'est une question de compétence.
Personne ne partirait demain avec nos données à caractère personnel. Et s'il y avait eu un CV digne du nom sur la table du chef de l'État, sur la table du Conseil des ministres, je vous assure que ça aurait été fait. Peut-être qu'il y a des gens bien qualifiés, mais sur l'instant, moi je peux vous certifier que le Conseil des ministres a eu plusieurs CV, les autres étant béninois et celui-ci étant rwandais. En regardant le profil, au regard de l'objectif, celui qui a été nommé avait une longueur d'avance sur les autres parce que il a une expérience avérée en la matière. Il a géré notamment cette problématique déjà dans son propre pays.
Les centrales syndicales ne l'entendent pas de cette oreille. Pour Kassamampo, secrétaire général de la CSTB, il n'y a plus une seule société d'État gérée par des Béninois. En tout cas, pas celle qui apporte une certaine plus-value à l'économie nationale.
La dernière nomination est l'acte inacceptable que les Béninois, à travers leur réaction, rejettent. Le Bénin n'est pas un département du Rwanda. Le nouveau DG, nommé à la tête de l'ANIP, fait partie des personnalités politiques les plus en vue qui dirigent le Rwanda. Il est donc inconcevable qu'on confie à un homme de ce rang les données personnelles des Béninois. Les travailleurs de l'ANIP, de la NAT et autres souhaiteraient vivement être dirigés par des Béninois qu'ils connaissent compétents et il y en a au Bénin. Non, ce n'est pas un désert de compétences.
Pour les démocrates, il n'y a pas à faire preuve de légèreté lorsque les données sensibles de toute une nation sont en jeu, souligne Guy Mitokpe, membre du parti.
La question de la nomination de ce cadre rwandais à un poste aussi sensible, il est normal que cela puisse susciter les questions au niveau de nos compatriotes. Et à ce sujet, vous devez comprendre que le parti a tellement pris la chose au sérieux que je crois que dans les jours qui suivent, une question orale avec débat sera introduite au niveau du Parlement par les députés du parti.
Imelda Bada est la présidente des Béninois de la diaspora. Pour elle, il n'y a pas à s'offusquer d'une telle nomination. Elle pense que les Béninois sont responsables d'une telle situation.
J'ai été sonnée par cette décision, comme tout le monde, hein. Mais ne voulant pas rester émotive, j'ai essayé de comprendre. La plupart de nos frères, de nos sœurs qui sont en fonction républicaine pensent d'abord à eux, leur entourage proche, ceux qui sont selon eux, avec eux. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis contente, non, parce que cela ne nous devrait pas nous dégager de la fierté, mais de l'amertume, de voir jusqu'où nous avons coulé, notre incapacité palpable. C'est ça, en fait, le truc.
Dans la rue, les avis divergent. Pendant que certains y voient une mauvaise décision, d'autres pensent que si c'était un Béninois qui avait un tel poste de responsabilité au Rwanda, on parlerait de fierté sans tenir compte des sentiments des Rwandais. Le gouvernement notifie que la gestion des données à caractère personnel est réglementé par la loi en République du Bénin avec une autorité dédiée à la question. Il rassure que tout sera fait dans le respect de la loi et qu'il n'y aura pas de manipulation ou de trafic des données. De Cotonou, Ginette Cloadandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement prône une politique de préservation de la nature en interdisant à la population de chasser certaines espèces animales ou de pêcher dans les aires protégées. Une politique qui a du mal à passer auprès d'une population qui n'a pour seule ressource que la forêt. Un reportage sur place d'Arsène Sévrin.
Ici, dans la Sangha, à près de 800 km au nord de Brazzaville, la population a sa conception de la préservation de la biodiversité. Elle a ses propres règles et reste convaincue que la viande de brousse ne s'épuisera point.
Ça peut pas diminuer parce que la viande, ici à la Sangha, la viande, ça c'est impossible. Nos grands-pères, nos oncles ont travaillé ici depuis quand j'étais encore petit. Bon, maintenant, la viande n'est pas finie.
Nous avons encore assez de viande de brousse. Notre forêt est très dense. Elle part d'ici jusqu'au Gabon. Il y a du gibier partout et les générations futures vont se régaler à leur tour.
Les autorités locales n'y vont pas d'une main de fer quand il s'agit de la viande de chasse à consommer sur place. Même les espèces protégées passent souvent dans la casserole. Joseph Muketo est le secrétaire général de la mairie de Wesso, la capitale de la Sangha.
Ce qui est interdit où certaines espèces ne peuvent pas aller vers Brazzaville. Mais vous pouvez en consommer sur place, tel que vous avez cette espèce protégée de sanglier.
Le gouvernement encourage la population à changer de culture en pratiquant l'élevage et l'agriculture. Mais les habitudes sont dures. Et ici, à Cabo, à plus d'une centaine de kilomètres de Wesso, en pleine forêt, c'est un citoyen d'un pays ouest africain qui donne la leçon.
Ici, les gens consomment les viandes de brousse parce que nous, on lève le mouton. Si on trouve aussi certaines personnes qui ont aussi dans les déserts, on peut aussi vraiment les vendre. C'est une façon de, si on a aussi l'habitude de souvent de faire des contacts avec les gens qui n'ont jamais fait d'élevage. et les motiver et de montrer comment il faut faire l'élevage.
Le Congo n'est pas seul dans son combat pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Les États-Unis apportent une assistance significative et souhaitent que la population environnante soit prise en compte, tel que le souligne ici Eugene Young, l'ambassadeur des États-Unis.
À peu près de 100 millions de dollars, ce n'est pas assez. Je peux dire, nous voulons continuer et augmenter notre aide pour ces zones et pour ces groupes là-bas, promouvoir l'élevage au lieu de chasse des animaux dans les forêts. Il y a des programmes qui soutiennent la création de petites et moyennes entreprises.
Entre le gouvernement qui promet la politique de la préservation de la biodiversité et la population qui vit de la chasse et les produits de la forêt, le combat est loin d'être gagné. Arsène Séverin, du retour de la Sangha, VOA Afrique.
Au Sénégal, le 31 mars a marqué le début des célébrations du centenaire de la naissance du savant africain Cheikh Diop, organisé par l'UCAD, Université de Dakar, et l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui portent tous les deux son nom. À cette occasion, VOA Afrique fait un zoom sur celui qui a fasciné et façonné plusieurs générations de Sénégalais et autres Africains. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Scientifique, physicien, historien, anthropologue et homme politique sénégalais, Cheikh Anta Diop est avant tout une icône commune à beaucoup de jeunes Sénégalais et Africains. C'est le cas d'Ibrahima Khalilullah Ndiaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
C'est quelqu'un qu'on a très tôt connu. Je peux dire même depuis notre cursus scolaire, depuis l'école élémentaire, jusqu'à présent. C'est quelque chose aussi qui était vraiment inspirant, qui était aussi une source de motivation pour tout étudiant et tout élève.
Une source d'inspiration, car Cheikh Anta Diop a très tôt su se démarquer et incarner une nouvelle génération de savants et de leaders africains. C'est ce qu'indique le professeur Abdoulaye Baylé Ndiaye, directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN.
À son époque, il avait senti qu'il y avait un problème majeur concernant l'histoire de l'Afrique. Parce qu'à l'époque, les gens considéraient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et il n'était bien sûr pas d'accord par rapport à ça, et il voulait démontrer qu'effectivement, non seulement l'Afrique avait une histoire, mais que l'histoire africaine était antérieure à celle des autres.
Pour y arriver, Cheikh Anta Diop fait des études en histoire et en linguistique, en plus de sa formation initiale de physicien. Chercheur à l'IFAN, il fonde le laboratoire radiocarbone, communément appelé laboratoire Carbone 14. De là, il parvient à prouver et à démontrer que la civilisation égyptienne est une civilisation noire. De 1965 à son décès en 1986, le professeur Cheikh Anta Diop mène des travaux importants dans son laboratoire. Cependant, son héritage a souffert de son décès, d'après le professeur Maurice Mbaye, responsable du laboratoire Carbone 14 de l'IFAN.
Alors après sa mort, le laboratoire est resté en hibernation de 86 à jusqu'à 2000. Hein, 2000. À partir de 2001, le directeur de l'IFAN de l'époque, Djibril Samb, hein, professeur de philo, a eu un financement, je pense, de l'État sénégalais pour réhabiliter le laboratoire. Il a été réhabilité, ce laboratoire, en 2000. Donc, on a recommencé les datations à partir de 2002. Voilà. Alors, jusqu'à de 2002, on va dire, jusqu'à nos jours, le laboratoire fonctionne. C'est comme ça que je veux dire, malgré certains problèmes qu'on a, des problèmes techniques.
Au-delà de son travail scientifique, Cheikh Anta Diop était également un homme politique très engagé pour la Renaissance africaine. Ainsi, l'Institut fondamental d'Afrique noire et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar célèbrent son centenaire pour honorer l'ensemble de son œuvre et l'offrir en exemple aux générations futures. Le thème choisi, Cheikh Anta Diop, 100 ans après sa naissance, les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Sedina Abagué pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Au micro, Idrissa Seludia, merci d'avoir suivi cette édition. À la mise en onde de Firmin Koyaveda, console, Bob Bass. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.